Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC.
Vendredi 12 août.
L'info sur RMC.
Il est 8h, merci d'avoir choisi RMC pour démarrer votre journée. Tout de suite, toute l'info, le journal avec Stéphane Genestre. Bonjour Stéphane.
Rebonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. La mobilisation des pompiers européens en Gironde qui s'organise. 65 soldats du feu allemands arrivés hier soir sont déjà en action ce matin. La sécheresse qui frappe la France et cette conséquence, la production de fromage de Salers est à l'arrêt. Explication dans ce journal. Et puis les parcs d'attractions ont le vent en poupe, plus 30% de fréquentation attendue cette année.
Ça y est, les renforts européens arrivent en Gironde pour épauler les 1100 pompiers français mobilisés face aux incendies.
La France qui a déclenché hier le système Rescue, le mécanisme de protection civile de l'Union européenne. 7 pays y ont répondu, l'Allemagne, la Roumanie, la Pologne, l'Autriche, la Grèce, l'Italie et la Suède. On vous retrouve, Océane Théard, vous êtes l'envoyé spécial de RMC à Austin. C'est le premier contingent de pompiers européens est arrivé hier.
Oui, 65 pompiers allemands sont arrivés ici à Austin. C'est aujourd'hui, ils sont répartis dans plusieurs colonnes de pompiers, mais ils seront mobilisés sur un seul secteur pour l'instant. Deux avions de Roumanie se sont également posés sur le sol français cette nuit avec à bord 50 pompiers et 14 véhicules. Des renforts venus de Pologne, d'Autriche doivent aussi arriver aujourd'hui. Au total, 361 pompiers européens sont attendus. Du côté des airs, deux canadairs grecs ainsi que deux avions bombardiers d'eau suédois vont voler aux côtés des appareils français ici en Gironde.
Et dernier bilan fourni par les pompiers ce matin, 7400 hectares de détruits. La nuit semble donc avoir été un peu plus calme que la précédente.
Oui, voilà, plus calme que les nuits dernières. Le vent a soufflé moins fort et les températures ont un peu baissé. Mais la journée va être de nouveau compliquée aujourd'hui. Il va faire chaud, très chaud, jusqu'à 38 degrés cet après-midi. Et le vent va reprendre de la vigueur. Aujourd'hui, la priorité des pompiers, cela reste avant tout de protéger les habitations. Les soldats du feu veulent sécuriser les hameaux, les lieux-dits qui se trouvent sur les secteurs brûlés. Une des zones les plus tendues reste la commune de Bélin-Béliet où des reprises de feu ont eu lieu cette nuit. Une reprise a aussi été déclarée du côté de la commune de Loucha. Elle serait a priori d'origine criminelle.
Océane Théard, envoyée spéciale de RMC à Austin. S'il n'y a pas qu'en Gironde que les flammes ravagent les forêts, dans le sud du Jura notamment, ou encore en Ardèche, un incendie s'est aussi déclaré cette nuit au Sable d'Olonne, c'est en Vendée. 1000 personnes évacuées, 15 hectares brûlés, le feu est désormais fixé. Et puis enfin, le feu qui a détruit 730 hectares entre l'Aveyron et la Lozère ces derniers jours a été fixé.
Les incendies favorisés par la sécheresse, et on se penche ce matin sur une autre conséquence de cette sécheresse. Les vaches ne trouvent plus d'herbe pour paître.
Comme dans le Cantal, où à partir d'aujourd'hui, la production du fromage AOP de Salers va devoir être arrêtée. Puisque les vaches doivent être nourries à 75% d'herbe pour respecter le cahier des charges de cette appellation d'origine protégée. Une situation qui va donc de mal en pis pour les éleveurs obligés de produire du Cantal, fromage moins exigeant et qui rapporte moins. Laurent Lours est le président de la filière AOP Salers.
Au minimum, on se dit qu'on va perdre un mois de production parce qu'aujourd'hui, on est vraiment des pâtures qui sont sèches et donc le temps que ça repousse, on en a pour un mois. Et un mois de production pour l'appellation Salers sur 6 mois qu'on produit par an, c'est important. Entre acheter l'alimentation pour les animaux et produire moins, ça, financièrement, ça va coincer, c'est sûr. Il y a quelques stocks, mais c'est sûr qu'il va manquer un peu et que la loi du marché fait que quand le produit devient rare, c'est vrai qu'il augmente.
Les chiffres du chômage en France sur le deuxième trimestre viennent d'être publiés et ils sont plutôt stables. Le taux de chômage entre avril et juin s'élève donc à 7,4%. Ce sont donc 2 300 000 personnes qui sont sans emploi. Et puis l'inquiétude toujours vive autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine. La France demande cette nuit à la Russie de retirer ses troupes du site. Le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique estime que l'heure est grave. Le site a une nouvelle fois été bombardé hier. Plusieurs capteurs de radiation ont été endommagés. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de ces frappes.
Il est 8h04 sur RMC. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, des cas de méningite à répétition. La région est touchée par un nouveau variant de méningocoque.
Une étudiante en est morte, 12 cas autres recensés, dont 2 graves. L'Agence régionale de santé lance donc une campagne de vaccination. Vaccination recommandée auprès des 16-24 ans de 205 communes de Savoie, de l'Ain, de l'Isère et du Rhône. Anne-Sophie Ronan-Baron de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes nous décrit les symptômes.
Une forte fièvre, une raideur au niveau de la nuque et quelquefois des taches violacées qui apparaissent sur l'ensemble du corps. Si en plus il y a des troubles au niveau de la vue, on doit alerter le 15. À ce jour, nous recommandons une vaccination par le méningocoque B pour ces jeunes âgés de 16 à 24 ans qui résident ou qui ont fréquenté les zones géographiques bien particulières. L'objectif, c'est de limiter la diffusion de ce nouveau variant en Auvergne-en-Alpes et puis effectivement dans le reste de la France.
Et un numéro vert a été activé, le 0800 100 378. Toutes les informations sont aussi disponibles sur le site de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes.
Il y aura beaucoup de monde sur les routes hein, ce week-end. Prudence, parce que c'est la route en pleine chaleur hein, que vous allez faire.
Et oui, ce vendredi sera la journée la plus chaude de la semaine. Le thermomètre ne descendra pas en dessous des 35 degrés aujourd'hui et demain dans le sud. Et il va encore y avoir du monde hein, sur les routes en ce week-end du 15 août. Bison futé, voie rouge demain dans le sens des départs et des retours. Ce sera même noir sur la côte méditerranéenne. Alors, vous avez tout de même des astuces pour éviter de souffrir de la chaleur et des bouchons, Estelle Henry.
Petits yeux mais grand sourire pour Abdel, sa femme et leur petit garçon de 4 mois. Ils viennent de faire 1000 km depuis Lens et s'arrêtent pour une pause rafraîchissante bien méritée.
Magnifique, magnifique, avec cette petite fontaine derrière, le petit coup de vent de temps en temps qui vient nous envoyer quelques gouttelettes, c'est super agréable.
Car pour être sur le Vieux-Port à Marseille en évitant les heures les plus chaudes, ils ont tout prévu.
On a décidé de rouler de nuit, que ce soit plus supportable pour bébé. Donc de 3h30 jusqu'à maintenant, on a fait 3 petites pauses de quasiment 45 minutes, 1 heure, voilà, pour s'hydrater.
Pas de trajet de nuit, mais des pauses très régulières pour Géraldine, son mari et leurs enfants en transit entre l'Ardèche et la Côte d'Azur.
Là, on a un peu l'impression que plus ça va, plus ça monte en chaleur.
Et c'est le parcours du combattant pour trouver des petites zones d'ombre et récupérer entre deux, quoi. On est parti chercher une petite glace, une petite bouteille de jus.
Entre deux pauses bouillantes, la voiture devient un refuge fraîcheur pour toute la famille.
C'est ça. La voiture, ouais, c'est nos trous de secours. C'est là où on s'alimente, c'est un peu la totale en ce moment. Et c'est aussi le frigidaire. C'est là où on va chercher un peu de fraîcheur, quoi.
Et si, comme Géraldine, vous prenez la route partant de forte chaleur, pensez à prendre de l'eau en quantité suffisante au cas où vous seriez ralenti dans les bouchons.
Le reportage d'Estelle Henry sur l'aire de Lançon de Provence dans les Bouches-du-Rhône. Et si vous prenez la route, peut-être vous dirigez-vous vers un parc d'attractions qui pourrait, cette année, il pourrait même connaître des records, notamment les parcs de proximité moins chers qui ont vu bondir leur fréquentation jusqu'à 30%. C'est en tout cas ce que vous avez constaté au parc Saint-Paul dans l'Oise, Alexis Vergerot.
Une quarantaine d'attractions pour tous les âges, c'est la promesse du parc Saint-Paul et elle semble remplie à en croire les sourires sur les visages. Les petits sont ravis, comme Coralie, 11 ans.
J'aime bien faire les manèges qui vont vite parce qu'il y a des sensations fortes.
Mais aussi les plus grands qui apprécient de pouvoir s'évader à moins d'une heure de chez eux et sans se ruiner. Salah, habitant des Yvelines, est venu avec sa femme et ses deux enfants.
On a vraiment décidé sur un coup de tête de sortir au parc Saint-Paul. Pour une famille, c'est très accessible. Disney Astérix, c'est beaucoup plus cher en fait. Alors que là, c'est une bonne sortie, on va dire, 80 euros pour 4 personnes. C'est très rentable, très très rentable.
Le point fort, c'est aussi la dimension humaine du site qui accueille entre 3000 et 4000 visiteurs quotidiennement. De quoi éviter de longues files d'attente, comme l'explique Soraya.
On n'a pas cette sensation où on se dit, on a manqué telle attraction, on profite de tout jusqu'à la fin.
Avec en plus une météo encore au beau fixe, l'affluence ne faiblit pas. Pour le plus grand bonheur d'Étienne Montecchio, superviseur opérationnel du parc, qui respire après 2 années de Covid.
En 2019, on a accueilli plus de 350 000 visiteurs et on espère, si ça continue comme ça, bien sûr, dépasser largement ce chiffre pour la saison 2022.
Ce week-end du 15 août sera l'un des plus importants de l'été. Plus de 5000 personnes sont attendues quotidiennement.
Ça donne envie. Hein.
Ouais, les parcs d'attractions qui respirent enfin après 2 ans de Covid. Il y a eu les restrictions, les masques, les jauges et puis les fermetures forcées. Gros été dans les parcs d'attractions. On va en parler dans une petite demi-heure avec mon invité à 8h40, Sébastien Retailleau. Il est le directeur adjoint du parc Astérix, connaît un grand succès aussi cet été. Il viendra nous raconter tout ça.
On a appris cette nuit la mort de Jean-Jacques Sempé, le dessinateur co-créateur du Petit Nicolas. C'est éteint hier à l'âge de 89 ans. 8h09 sur RMC. Football maintenant avec ce soir le coup d'envoi de la deuxième journée de Ligue 1. Nantes qui reçoit Lille pour ce match d'ouverture et après un match nul et vierge face à leurs voisins d'Angers en première tournée. En première journée, les Canaries vont retrouver ce soir leur public et ça va faire du bien aux joueurs. C'est ce qu'estime Antoine Comboiré, le coach du FC Nantes.
C'est pas content de retrouver la Beaujoire, c'est pas content de retrouver notre public. Il y a une grosse attente, donc ça va être un supplément de motivation pour les joueurs. Quand ils vont arriver et puis ils vont voir donc, ce 12e homme là présent, ça aide. Mais il faudra que, surtout que nous, on soit capable de faire ce qu'il faut sur le terrain. Hein. J'ai 4-5 matchs pour voir un peu donc, ce que vaut cette équipe. Quoi. Est-ce qu'on est capable de garder du moins le même niveau, pourquoi pas l'élever encore plus? Les réponses, on va les avoir donc, à travers les matchs qu'on va jouer là.
Nantes-Lille, coup d'envoi à 21h à suivre évidemment en intégralité sur RMC.
C'était le journal de Stéphane Genest sur RMC, il est 8h10.
RMC, 6h-9h.
Apolline Matin.
À suivre sur RMC le débat du jour. On va parler des tensions autour de l'eau et de ces actions menées par des activistes écologistes contre des golfs, contre des jacuzzis et contre des retenues d'eau utilisées par des agriculteurs. Est-ce que ça vous choque? Est-ce réellement la bonne méthode? On y revient dans un instant et surtout, on vous attend, vous, au 32-16. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Et justement, c'est ce qui fait réagir ce matin sur Direct Studio, cette guerre de l'eau, ces militants écolos qui s'en prennent aux bassines utilisées par les agriculteurs, notamment deux réserves d'eau vandalisées en Vendée. Le mois dernier, des militants écolos ont également éventré des jacuzzis chez des particuliers et des golfs ont été dégradés à Toulouse, notamment. Au lieu de détruire, les activistes feraient mieux de chercher des solutions, écrit Bernard. Les vrais écolos n'ont pas le temps ni l'énergie pour dégrader des golfs ou des réserves agricoles. Ils sont sur le terrain et ils utilisent leur énergie pour faciliter la lutte contre les incendies, nous dit ce matin un autre auditeur d'RMC. Et puis Monique réagit sur Direct Studio. Les écologistes se prennent pour des justiciers. Je voudrais savoir, moi, ce qu'ils font chez eux. Personnellement, moi, je récupère l'eau de lavage de mes légumes pour arroser mes plantes. Si j'en ai trop, j'arrose l'espace vert dans la cour. La ville d'Évupinal a décidé de retirer ses jardinières. C'est pas en saccageant que les choses s'améliorent, nous dit-elle.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h14 sur RMC et vous avez la parole. La guerre de l'eau est-elle déclarée? C'est notre débat du jour au 32-16 et sur l'application RMC. Après ces actions à répétition des militants écologistes qui s'attaquent à des golfs, des trous de golfs rebouchés au ciment pour protester contre l'arrosage des greens, des actes de vandalisme aussi qui ont visé les réserves d'eau des agriculteurs, ça s'est passé en Vendée, des actions souvent revendiquées par des groupes écologistes et notamment à Extinction Rébellion. Alors est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous comprenez ces actions? Est-ce un message important à envoyer ou est-ce que cela risque d'exacerber les tensions? On en parle tous ensemble au 32-16. D'abord écoutez l'un de ces militants écologiste s'appelle Alex, il est membre de ce groupe Extinction Rébellion et il justifie ses actions, écoutez-le.
C'est important parce que c'est un rapport de force, puisque l'État ne prend pas sa responsabilité d'interdire ces pratiques-là, eh bien c'est aux individus aussi de faire l'effort, à la fois de faire la police et de dire ben non, on n'accepte plus ces choses-là, mais aussi de faire l'effort de dire ben moi j'ai pas envie de contribuer à cette économie-là qui est délétère, qui est destructrice, qui est suicidaire. Donc aujourd'hui, évidemment que les activistes vont redoubler pour se faire entendre. Évidemment que les sabotages vont redoubler pour se faire entendre et évidemment que les actions d'occupation, les actions d'éclat, les actions de communication qu'on privilégie, parce que ce qu'on veut, c'est un changement des mentalités. On ne veut pas s'en prendre à l'outil économique ou à l'activité économique de quelqu'un, encore une fois. On ne vise pas une personne en particulier, on ne peut pas déranger quelqu'un. On peut déranger une logique économique qui est destructrice et on ne peut plus accepter qu'il y ait un enrichissement face sur le dos de la planète.
Voilà, témoignage recueilli par Maxime Lévy, sujet qui vous fait énormément réagir ce matin. Il faut forcer les mentalités, c'est aux individus de faire la police et les sabotages vont redoubler, dit ce militant. Sylvie est avec nous au 32-16. Bonjour Sylvie.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, dans la Drôme, département très frappé par la sécheresse, évidemment.
Oui.
Il y a des golfs dans votre région, par exemple ?
Oui, il y a des golfs, mais ils sont tout à fait respectueux des mesures qui ont été prises de restriction. Ils vivent de leur métier, il faut bien qu'ils en vivent. Et moi, je sais que quand le peu de golfs que nous avons, c'est plutôt dans l'est de la Drôme, ils sont respectueux du fait de l'arrosage, hein, comme nous les agriculteurs, parce que nous, en ce moment-là, nous sommes en train de perdre nos récoltes au niveau de la viticulture. Nos maraîchers sont en train aussi de perdre, comme les céréales, leurs récoltes, parce que grâce aux écolos et la OFB, on a fermé les canaux d'irrigation, on ne peut plus arroser respectueusement la nuit, et on fait aussi mourir la faune et la flore. Hein. Il faut savoir que c'est les castors, les poissons, la libellule qui était protégée, qui est en train de mourir.
Mais
ces écolos.
Sylvie, vous êtes viticultrice, vous êtes agricultrice. Vous vous dites pas, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de garder de l'eau, entre guillemets, pour les golfs, alors que cette eau pourrait servir peut-être en priorité à l'alimentation et aux agriculteurs?
Tout à fait, mais ça va être un mode de gestion. Ça nous tombe un peu dessus, entre guillemets, cette gestion, elle est terrible à faire cette année. Donc, il va falloir se mettre à table tous ensemble et voir en temps de crise comment on peut gérer au mieux ces ressources en eau. C'est pas en cassant l'outil de travail des uns et des autres qu'on y arrivera, parce que c'est complètement stérile ce qu'ils font ces jeunes. S'ils s'enquiquinent, donnez-leur un conseil, qu'ils coupent des bidons, qu'ils aillent mettre de l'eau aux bêtes, qu'ils aillent aider les pompiers à combattre les feux, parce qu'il y a des feux comme en Gironde, ils ont été éclairés ou accidentellement ou intentionnellement. Ils ont interdit qu'on débroussaille, les pompiers ne peuvent pas passer. Il y a des vingtaines de blessés chez les pompiers aussi. Est-ce qu'ils ont la tête sur les épaules? Je ne pense pas. C'est pas comme ça qu'on gère une situation de crise.
Vous craignez que ces tensions s'aggravent là dans les jours, semaines qui viennent avec ces batailles autour de l'eau? C'est un peu chacun pour soi.
Ce serait pas chacun pour soi. Si on s'asseyait une table, de toute façon là le mal est fait. Il y a plus d'eau, il faut attendre qu'il pleuve. C'est pas en cassant le golf, en venant nous enquiquiner nous avec nos réserves d'eau, les agriculteurs qui nourrissons la planète, qu'on va s'en sortir. Parce que ça c'est stérile. Après on s'assoit, il va falloir faire peut-être des réserves d'eau souterraines. Il y a du travail à faire. Donc qu'ils prennent un stylo, qu'ils prennent leurs petites mains au lieu de dégrader un stylo, un papier, et qu'ils couchent leurs idées et qu'on se rencontre.
On a bien entendu votre coup de gueule, Sylvie. Merci beaucoup. Merci pour votre appel au 32-16 et bon courage dans vos vignes, bien sûr, dans la Drôme face à cette sécheresse. Julien également est avec nous au 32-16. Bonjour, Julien.
Oui, bonjour.
Ça va, Julien? Vous êtes aussi dans une région touchée par cette sécheresse?
Oui, un peu toute la France, on va dire, malheureusement, cette année.
Vous êtes en Indre-et-Loire, je lis sur votre fiche.
Oui, je suis en Indre-et-Loire. Donc bon, après, on a moins de départs de feu, mais c'est encore très sec, hein. Ça fait plus de 2 mois qu'on n'a pas d'eau. Ça devient inquiétant. Je suis aussi agriculteur. Je suis pas irrigant, comme ça pichait les choses. Mais moi, je trouve ça scandaleux ce qu'ils font. Parce qu'ils ne réfléchissent pas. Ils vont détruire des choses ils ne savent même pas comment ça fonctionne. Les réserves d'eau des agriculteurs, c'est rempli en hiver. Donc déjà, je vois pas ce qu'il y a à faire avec l'eau, hein. Si elle n'était pas dans la réserve, elle serait déjà dans la mer. Est-ce que c'est les eaux d'écoulement? C'est pas les eaux souterraines, pour la plupart. Et deuxième chose, je trouve quand même scandaleux qu'on ne fasse rien, parce qu'ils revendiquent des actions de vandalisme, mais derrière, ils ne se sentent pas inquiétés, donc ça devient de la politique dangereuse. Si j'ai une idée, dans ce cas-là, je peux aller le faire, mais sous le couvert de la politique, je peux faire ce que je veux.
Ouais. Il faut forcer les mentalités quelque part. On entendait ce militant dire qu'il faut forcer les mentalités, et ça implique parfois des actions radicales. Sauf que ça a des conséquences très précises, j'imagine, pour les agriculteurs quand on leur perce leur réserve d'eau.
Économique et puis écologique, hein, parce que ça et le point d'eau, il y a aussi de la vie, hein, donc quand il est percé, après la vie, les poissons, ça aide pas. Et deuxième chose, c'est que quand on regarde ce qu'ils ont fait, ils ont attaqué des agriculteurs, ils ont attaqué des golfs, des jacuzzis privés, ils n'ont pas été voir les centres d'attraction, les piscines municipales, ils n'ont pas été voir tout ça. C'est aussi des endroits où il y a beaucoup d'eau. Pourquoi ils s'attaquent particulièrement au golf, à ces styles de personnes? Je trouve ça quand même problématique de s'attaquer à des idéologies sans réfléchir avant et sous le couvert d'être écologiste, on a le droit parce que c'est nos idées.
C'est symbolique, les jacuzzis, les golfs, alors je parle pas des bassins utilisés par les agriculteurs, mais les golfs et les jacuzzis, on est dans le symbole aussi.
Oui, on est dans le symbole, c'est le symbole, mais il y a d'autres choses. Eux, dans le quotidien, ils doivent prendre des douches, ils doivent faire des choses. Il n'y a pas que le privé chez le voisin. Je pense que chez eux, ils peuvent faire autrement. On peut agir sans détruire les autres. Même, ils vont détruire des golfs en bouchant des trous avec du ciment. Le ciment, ils ont dû le couler avec de l'eau.
Vous, Julien, vous vous dites quoi? Qu'on est dans une société où chacun regarde chez le voisin sa consommation. On va en venir à ça, à surveiller si le voisin arrose son jardin, le dénoncer. On arrive à ça?
J'espère qu'on n'y arrivera pas. Parce que je trouve ça scandaleux. Chacun doit prendre ses responsabilités et pas faire n'importe quoi. Nous, les pelouses chez moi, elles sont grises, elles sont pas arrosées. Comme chez beaucoup. Après, c'est plus de la conscience de chacun que plutôt faire de la dénonciation. Après, au bout d'un moment, on n'est plus dans un pays de droit si on commence à faire ça. Et ça devient problématique.
Merci, Julien.
De rien.
Merci beaucoup pour votre témoignage ce matin au 32-16. Julien, qui est également agriculteur. On est également avec Olivier au 32-16. Bonjour, Olivier.
Oui, bonjour à tous.
Beaucoup de réactions hein, suite à ces actes de vandalisme. Comment vous avez réagi en voyant ces actes à répétition? On va donc percer des réservoirs d'agriculteurs, remplir les trous des golfs pour protester contre l'arrosage des greens.
Bah, moi, ce qui me choque un petit peu, c'est que tous ces gestes de vandalisme, ça peut prendre écho quand on entend le maire de Colmar qui lui fait son petit caprice pour arroser ses géraniums. Enfin, moi, ce matin, j'ai trouvé ça juste hallucinant. Je me suis dit, c'est des propos lunaires, quoi, qui nous tient. J'avais déjà entendu, mais j'avais pas entendu. Enfin, j'avais déjà pu constater, mais pas entendu. J'ai entendu ce matin par rapport à mes oreilles, mais je me suis dit, mais vous rendez compte?
Oui, le maire de Colmar, j'ai juste reprécisé pour les auditeurs qui n'étaient pas là un peu plus tôt. Olivier, le maire de Colmar était avec nous tout à l'heure parce qu'il demande une dérogation pour pouvoir arroser les plantes sur sa ville. Oui. Une dérogation qu'il n'a pas obtenue. Et du coup, il a demandé aux habitants de récupérer au maximum l'eau de la vaisselle ou l'eau des légumes pour les arroser.
Il y a quand même quelque chose qui me dérange fortement, c'est que vous avez quand même dans le pays, vous avez quand même des maraîchers qui sont en train de perdre la moitié de leur production parce que ils ont fait des choix parce qu'ils sont en restriction. Ce monsieur, il est soi-disant installé assis sur une manne parce qu'il a une source sous ses pieds. Moi, je lui propose qu'il fasse partir tous les jours des camions citernes pour arroser tout le pays. Il y a un moment, faut arrêter, quoi. Et puis la cerise sur le gâteau, moi, ce qui m'agace au plus haut point, c'est que cette problématique de sécheresse d'incendie, là, je pense qu'on arrive au summum, mais ça fait quelques années qu'on en entend parler. Et quid vraiment, j'espère que dans les saisons qui vont arriver, là, c'est-à-dire automne-hiver, les saisons dites humides, on va quand même mettre en place des choses concrètes. Enfin, quand je dis on, les pouvoirs publics, parce que le blabla, le tralala, il y en a franchement marre. Là, on voit bien qu'il va falloir se relever les manches parce que si ça continue, dans 10-15 ans, vous n'avez plus de forêt dans le pays, quoi.
De toute façon, il y avait des périodes de sécheresse quasiment. Il y a des départements qui sont sous sécheresse et sous restriction d'eau tous les ans depuis des années.
Avant ?
Et qui commence effectivement.
Avant, vous aviez. Moi, je vois, je suis en Bourgogne. Bon, j'ai encore la chance d'avoir des points verts. Mais vous avez des plaines dans le pays où vous n'avez plus un arbre, plus une retenue d'eau, plus rien du tout. Plus c'est mort de plaine, comme on dit. Donc, il y a peut-être aussi cette problématique-là qui pointe son nez, quoi. C'est un vaste problème à solutionner, j'en conviens. Mais on a quand même des gens qui sont censés nous montrer le chemin. Donc, encore une fois, qui nous montrent le chemin sur ce problème-là.
Oui. Sylvie disait un peu la même chose que vous tout à l'heure, Olivier. Il va falloir à un moment se mettre autour de la table, y compris avec les écologistes, pour essayer de trouver des solutions qui permettent aussi de préserver l'agriculture, qui permettent de préserver les activités économiques quand on parle des golfs, etc. Mais sans pour autant tomber dans cette sécheresse extrême. Merci à tous pour vos témoignages ce matin au 32-16. Énormément de réactions à la fois au 32-16 et sur l'application RMC ce matin sur ce sujet de l'eau. 8h24 sur
RMC. RMC s'engage pour vous.
RMC s'engage pour vous chaque matin avec Johanna Chabaz. Bonjour Johanna.
Bonjour.
RMC vous vient en aide, vous le savez, et nous reprenons des nouvelles de tous ceux que nous avons aidés cette année. Johanna, vous nous reparlez ce matin d'un village charentais qui se bat depuis 3 ans maintenant pour sauver une famille éthiopienne de l'expulsion.
Oui, les 1200 habitants de Saint-Génis-de-Saint-Onge en Charente-Maritime sont mobilisés pour aider la famille Gétou, un père et ses 2 enfants installés dans le village depuis 3 ans. Ils ont fait une demande d'asile qui a été refusée et donc lors de notre premier reportage en décembre, ils pouvaient être expulsés à tout moment vers leur pays d'origine, l'Éthiopie, un pays en guerre. Anne-Lévi Atolin qui avait rencontré les 2 enfants Gétou, Temsken, 11 ans, et Yabsera, 8 ans, ils craignaient pour leur vie.
J'aimerais rester ici en France parce qu'en Éthiopie, il y a la guerre. Et je risque de mourir là-bas. Et c'est que ici, j'ai plein d'amis, je me sens bien. Ils m'ont dit, j'espère que tu vas rester. Et des mots gentils avec.
C'est mieux de rester ici parce qu'on connaît bien la petite ville. Il y a beaucoup de gens qui nous aiment.
Est-ce que vous avez un vœu là pour la fin de l'année?
Rester en France.
Rester en France.
Johanna, aujourd'hui, vous avez pris des nouvelles. Comment ils vont?
Eh bien, après notre reportage et plusieurs manifestations et pétitions, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'obligation de quitter le territoire qui menaçait la famille. Le père a donc pu déposer son dossier à la préfecture qui lui a donné un titre de séjour provisoire. Mais sous condition, Monsieur Gétou a jusqu'au mois de novembre pour trouver un CDI et un logement. C'est seulement à ce moment-là que le préfet pourra réexaminer le dossier et prolonger ou non le titre de séjour.
Ça veut dire qu'on est maintenant à 3 mois de cette échéance. Où en est cette famille?
Alors aujourd'hui, le père de famille est en période d'essai dans une champignonnière du coin. Il pourrait donc signer un CDI d'ici le mois de septembre, si tout se passe bien. Une bonne nouvelle pour la famille et son comité de soutien. Aurélie en fait partie.
Je vais vous dire mot pour mot ce qu'il m'a dit, Monsieur Gétou, en me disant « Je n'ai plus mal à la tête,
j'arrive à dormir et ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Et remercie énormément tous les gens qui ont pu être acteurs de ces actions, en fait, hein, même si, bien sûr, il y a toujours cette épée Damoclès qui est toujours présente, quoi. Tant que rien n'est signé officiellement, on reste très, très, très prudent. Nous, on va remplir notre partie, en tout cas. On espère que le préfet en tiendra compte. On est un comité de soutien, on va aller jusqu'au bout, quoi.
Une fois le CDI signé, la famille va chercher un logement près de Saint-Génis-de-Saint-Onge, là où les enfants sont scolarisés. Donc si vous avez des pistes, n'hésitez pas à nous écrire, on transmettra bien sûr.
RMC pour vous, @rmc.fr, c'est l'adresse email qui est ouverte. Vous nous écrivez, on prendra des nouvelles de cette famille, on continue de suivre tous nos dossiers. Et puis si vous avez besoin d'aide vous-même, vous pouvez nous écrire, bien sûr. RMC pour vous continue évidemment tout au long de l'année. Merci Johanna Chabas, 8h27, dans un instant la météo et le journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.